Bonjour, merci à tous, merci d'être venus et bonjour, merci à Frédéric Nera pour m'avoir invité et avoir introduit cette présentation. Donc je souhaiterais ici aborder des choses qui d'habitude sont un petit peu séparées, en tout cas dans les présentations habituelles en histoire. On fait parfois une histoire des réformes de l'enseignement supérieur et puis des transformations de cet enseignement supérieur. Et puis de l'autre côté, on évoque l'histoire des idées, l'histoire des intellectuels, l'histoire de la vie intellectuelle. Et souvent, ce sont deux domaines qui ne communiquent pas ou qui sont considérés comme étant parallèles l'un à l'autre, alors qu'en fait, on peut imaginer qu'il peut y avoir des liens entre eux. Donc je vais essayer justement, au cours de cette présentation, de montrer comment on peut relier ces deux types de phénomènes et comment les uns et les autres interagissent au cours de la dernière période, c'est-à-dire essentiellement depuis la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 60. Je laisse la période post-68 à des spécialistes et aux sociologues, puisque comme c'est une période que j'ai moi-même vécue, je ne me sens pas assez éloigné d'elle pour pouvoir en faire l'histoire. Premier point, donc je pars de la fin du XIXe siècle parce que, vous savez sans doute, c'est le moment où il y a eu la première grande réforme universitaire. Depuis, on en a eu énormément, mais peut-être pratiquement pas de décennie où il n'y ait pas une réforme universitaire au XXe siècle et aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment la première grande réforme qui a été voulue par le régime de la Troisième République pour mettre, disons, la France au niveau international, alors qu'elle avait été un petit peu distancée par des pays voisins, en particulier l'Allemagne, et elle avait pris conscience de ce décalage à la suite d'un événement que vous connaissez, j'imagine, qui est la défaite de 1870, où la France avait connu une défaite très humiliante, occupation de son territoire, ensuite, vous le savez, un épisode très douloureux avec la Commune de Paris, puis une longue période de difficultés avant de fonder définitivement la Troisième République. Donc ça a créé tout un débat pour comprendre pourquoi la France était tombée si bas, et comme à l'époque les intellectuels n'avaient pas peur de trouver des explications simples et efficaces, ils avaient expliqué que c'est parce que l'université ne fonctionnait pas que la France avait perdu la guerre. Bon, je ne vous fais pas un dessin pour vous dire que cette explication est un petit peu tirée par les cheveux, mais il y avait quand même une certaine vérité dans le fait que l'université française était effectivement un peu archaïque dans son fonctionnement à l'époque. Je ne parle évidemment pas d'aujourd'hui, aujourd'hui tout va bien, mais à l'époque, il y avait des professeurs qui faisaient des cours ennuyeux, il y avait des étudiants qui n'écoutaient pas les cours ou qui allaient assez peu aux cours, il y avait des examens où on était parfois en difficulté pour être reçu, enfin des choses qui n'existent plus aujourd'hui, et surtout, les professeurs se répétaient beaucoup, ils n'innovaient pas beaucoup, ils faisaient toujours les mêmes cours, etc., etc. Donc tout ça, évidemment, n'était pas tolérable dans un pays qui a toujours mis l'intelligence comme valeur suprême, et donc il y a eu le projet de la part d'un certain nombre d'universitaires qui, eux, ne voulaient pas rester sur cette médiocrité, et puis aussi d'un certain nombre d'hommes politiques qui pensaient que l'université pouvait servir à quelque chose, donc qui ont fait un certain nombre de grandes réformes. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais la principale idée de ces réformes, c'était de faire de l'université un lieu intellectuel et non pas un lieu simplement de ratiocination et de répétition, et de faire surtout de l'université un lieu de recherche. Bon, aujourd'hui, ça nous paraît une banalité, mais enfin, à l'époque, c'était une innovation. Et pour faire de l'université un lieu de recherche, il fallait évidemment à la fois renouveler le corps enseignant, donc faire entrer des jeunes, faire entrer des gens qui avaient des idées, et puis aussi modifier la pédagogie, modifier les relations entre les étudiants et les universitaires, en particulier en créant une forme que vous connaissez aujourd'hui, mais qui à l'époque était une nouveauté, ce qu'on appelle le séminaire, c'est-à-dire un lieu où le professeur n'est pas, comme en ce moment moi-même, derrière une table à faire des cours, mais discute, guide ses étudiants, échange avec ses étudiants, leur apprend par la pratique, par la lecture, par la discussion et par en incitant les étudiants à faire un travail personnel qu'ils contrôlent au fur et à mesure, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les travaux dirigés dans le système contemporain. Donc on voit qu'il y avait une volonté vraiment de faire de l'université un lieu intellectuel et un lieu d'innovation intellectuelle. Donc ça, c'est un premier acquis très important de cette période et qui s'étend en gros des années 1880 à la guerre de 14. Je vais donc aller un peu plus dans le détail de cette période et montrer maintenant quelles sont les conséquences de cette nouvelle vision de l'université, de cette nouvelle fonction de l'université. Alors, première transformation, c'est qu'évidemment, il faut faire enseigner dans cette université rénovée de nouvelles disciplines qui, jusqu'ici, n'y avaient pas leur place. Hein, vous êtes ici dans une université où vous avez toutes les disciplines. Chaque bâtiment a une spécialisation. À l'époque, on avait un tronc commun très, très étroit avec quelques grandes disciplines classiques et très peu de spécialisations. Et on voit justement à partir de ces réformes des années 1880 et 90, la multiplication des spécialités et surtout l'introduction de nouvelles disciplines qui n'avaient pas leur place, en particulier les sciences humaines ou les sciences sociales, on employait plutôt le terme sciences sociales à l'époque, les disciplines aussi qui font pont entre sciences humaines et sciences de la nature, en particulier la psychologie, et puis des disciplines qui ont des retombées plus pratiques, qui peuvent avoir une interaction avec la société elle-même, la sociologie, l'économie, les disciplines aussi relevant de la biologie, etc., etc. Donc on voit un élargissement considérable des domaines d'intervention de l'université, une diversification bien entendu des enseignements et des formes de l'enseignement, et évidemment un rôle nouveau de ces disciplines puisqu'elles peuvent avoir un impact sur la société environnante, pas simplement être des lieux clos sur eux-mêmes ou qui ne s'adressent qu'aux spécialistes, mais éventuellement réfléchir à des applications de leurs découvertes ou de leurs théories. Ce qui explique aussi que la part en particulier des sciences va augmenter. Là, je vous ai tout simplement mis quelques chiffres pour que vous ayez une idée des rapports de force. Donc, les facultés de sciences et les facultés de lettres, qui jusqu'ici étaient plutôt les parents pauvres de l'université, vont devenir progressivement des lieux beaucoup plus importants et rééquilibrer les disciplines traditionnelles qu'étaient le droit et de la médecine. Et puis, pour augmenter aussi cette diversité, on a créé de nouveaux établissements, hein, en particulier l'école pratique des hautes études, et le terme de pratique est très significatif. Il s'agissait d'avoir un enseignement qui soit fondé sur la pratique, c'est-à-dire fondé sur la recherche, fondé sur l'échange et sur la discussion. Il y a aussi une autre innovation qui est mentionnée sur cette diapositive, la création des maîtres de conférences, dont le terme existe toujours, un peu différent à l'époque, mais enfin, c'est-à-dire des gens qui ne soient pas uniquement des professeurs titulaires anciens, mais une jeune génération qui est encore en train de faire de la recherche et qui, justement, pourra, grâce à cela, rénover l'enseignement. Il y a aussi toute une politique ambitieuse d'augmentation des budgets, de création de bourses pour permettre à des étudiants de prolonger leurs études ou de les faire dans de bonnes conditions, et puis tout un programme aussi de rénovation des locaux qui étaient dans la plupart des cas obsolètes ou inadaptés à ces nouvelles ambitions. Et enfin, le point d'aboutissement de toutes ces réformes, c'est la création par une loi de nouveau des universités. Jusque-là, on parlait de facultés, hein, qui étaient des organismes séparés et entièrement sous la coupe du ministère de l'Éducation ou de l'Instruction publique à l'époque. Et là, on va recréer des universités qui ont une sorte de personnalité morale, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de créer elles-mêmes de nouveaux enseignements sans forcément demander l'avis du pouvoir suprême, et elles ont aussi des capacités de se financer grâce à des dons et des legs ou des entreprises de fondations divers types. Donc on a vraiment une ouverture du système universitaire, une diversification du corps enseignant et un rajeunissement, bien entendu, de ce corps enseignant qui va s'ouvrir à de nouvelles idées et à de nouvelles générations. Et là, j'ai mis des chiffres, ça ne vous dira pas grand-chose, évidemment, puisqu'il s'agit de francs or de l'époque, mais enfin, il suffit de voir quand même le décalage entre le chiffre de 1875 et celui de 1913 pour montrer quand même que c'est un effort considérable, puisque c'est presque une multiplication par 3 ou 4 en l'espace d'une trentaine d'années. Alors, quels sont maintenant les effets? Ben, on voit une croissance grâce à ces nouveaux moyens, grâce à ces nouveaux locaux et grâce à ces nouveaux enseignants. On a une progression significative des étudiants, avec un rééquilibrage entre les étudiants de lettres et sciences d'un côté face aux étudiants de médecine et de droit. Donc on voit vraiment une université beaucoup plus équilibrée qu'autrefois. On voit aussi une amélioration des conditions de travail. Bon, là, c'est évidemment un endroit qui ne sert pas à grand-chose, puisque c'est plutôt pour les grandes cérémonies solennelles qui ont lieu à la Sorbonne, hein, l'amphithéâtre, le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Mais ça montre bien quand même qu'il y avait une valorisation de l'espace universitaire, puisqu'on essaye d'en faire un lieu prestigieux et attractif. Il y a d'autres amphithéâtres moins solennels, mais enfin, ça voulait dire quand même un effort de remontée du prestige et de l'image symbolique de l'université de cette époque. À côté de ces bâtiments traditionnels avec les amphithéâtres, il y a aussi la création d'instituts de recherche. Le plus connu d'entre eux, c'est celui de l'Institut Pasteur de 1887. Et l'originalité de cet institut par rapport à d'autres lieux de recherche soutenus par l'État, c'est qu'il a été fondé à partir d'une souscription de milliers et de milliers de gens qui ont constitué une sorte de fortune, de capital, après un appel au fond, comme aujourd'hui on fait avec le Téléthon ou avec les grandes campagnes autour de certaines maladies. Eh bien, c'est la première fois qu'un grand organisme de recherche donc est fondé, non pas avec des fonds publics, mais avec des fonds d'origine privée, et qui va, grâce à cela, avoir une grande autonomie, se fixant un peu les mêmes objectifs que l'université, c'est-à-dire est un lieu de recherche qui innove, qui trouve de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins, de nouvelles façons de traiter les maladies, qui enseigne ces nouveautés, qui les transmet à un corps de spécialistes, et aussi un lieu qui va servir de modèle, puisqu'il y aura des instituts pasteurs qui vont être créés dans différents pays du monde pour diffuser ces connaissances dans l'ensemble de la planète. Donc ça montre bien cette ambition nouvelle de la recherche et de l'enseignement pour être à la fois à l'écoute de la société, résoudre des problèmes de la société. Le grand prestige de Pasteur vient du fait qu'il a résolu quelques grandes maladies, que ce soit des maladies humaines ou des maladies s'attaquant par exemple aux animaux ou s'attaquant à certaines plantes, et en même temps volonté de faire bénéficier de cette recherche non pas des intérêts privés mais de les mettre à la disposition de l'ensemble de la société, d'où évidemment l'idéal un peu du savant qui doit être une sorte de bienfaiteur de l'humanité. Donc là, tout ça, ça crée évidemment une image totalement nouvelle de ce qu'est la fonction de l'universitaire, de ce qu'est la fonction du chercheur, et ça traduit évidemment aussi l'optimisme de cette époque. Nous sommes dans la phase un peu conquérante de la Troisième République, où on est dans la même époque en train de bâtir l'enseignement primaire, de développer cet enseignement primaire à l'échelle de l'ensemble de la nation, d'en faire un instrument d'unification de la société et de formation d'une conscience collective en direction d'un patriotisme résolu. Bon, bien sûr, on sait qu'il y a eu des conséquences parfois tragiques de cet excès de patriotisme, mais en tout cas, il y a vraiment un projet de société où il y a un lien très direct entre le savoir, le pouvoir et la volonté d'innovation qui traverse cette époque de la Troisième République. Alors, comment est-ce que ça se traduit pour le pays? Eh bien, l'image de la France va s'en retrouver évidemment améliorée, puisque on peut le constater à travers le fait qu'il y a une progression tout à fait significative, vous l'avez sur ce tableau, de la part des étudiants étrangers qui fréquentent les universités françaises et en particulier l'université de Paris. Vous voyez qu'en 1890, on avait environ 5,6% d'étudiants étrangers en France, 10% à Paris, c'est normal puisque c'est une université plus développée et plus complète, mais il y a une progression continue en 1910, 15% en France, 17% à Paris, et dans l'entre-deux-guerres, on arrive à une sorte de maximum, 22% en France, 24,5% à Paris. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est à 15-16% d'étudiants étrangers en France, bien entendu, ça porte sur des masses beaucoup plus considérables que dans l'époque que je vous mets sous les yeux, mais en pourcentage, il y avait plus d'étudiants étrangers à cette époque qu'aujourd'hui, ce qui montre bien quand même un rayonnement significatif de la science française et de l'enseignement universitaire. Donc de ce point de vue-là, on peut dresser un bilan, je pense, largement positif de ces réformes. Ceci dit, tout n'est pas positif puisque chacune de ces grandes options a des contreparties et c'est là où on voit que ça va impacter, comme on dit aujourd'hui, la vie intellectuelle. Puisque la multiplication des disciplines fait que, bien entendu, il faut une spécialisation. On ne peut plus couvrir l'ensemble du champ du savoir quand on est un étudiant. Il faut se spécialiser. De la même façon, les universitaires qui veulent à la fois être des enseignants et des chercheurs, selon un modèle aussi très contemporain, doivent mettre leur effort sur un domaine de plus en plus limité pour arriver à mieux le dominer et surtout pour être à la pointe de la réflexion par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Et la contrepartie, c'est qu'évidemment, on va avoir la naissance, c'est ce qui est mentionné sur cette diapositive, de revues spécialisées par discipline, voire de plus en plus même par sous-ensemble disciplinaire, et donc une fermeture peut-être de chacun sur son domaine, sans forcément communiquer avec les voisins. Et tous les noms de revues que je vous ai mis sur cette diapositive montrent bien que chaque champ du savoir commence à avoir sa propre revue, et puis ensuite, quand il y aura de nouveau des subdivisions disciplinaires, il y aura une nouvelle revue qui va apparaître, et du coup, ça va être de plus en plus difficile, en tout cas les universitaires de l'époque s'en plaignent, de suivre ou de pouvoir suivre l'ensemble des travaux. On doit être de plus en plus pointu et on doit de plus en plus se spécialiser sur son domaine sans pouvoir forcément lire les disciplines voisines. Dans la période antérieure, c'était assez différent puisqu'il y avait assez peu de revues disciplinaires, en tout cas il y en avait beaucoup moins, que d'autre part il y avait aussi dans les grandes revues générales, des revues de culture générale, des articles de savants ou des articles d'universitaires qui pouvaient mettre à la portée d'un public plus large l'état de leurs réflexions. Donc on pouvait dans la même revue, la revue des Deux Mondes par exemple, qui était la grande revue de référence de l'époque, avoir à la fois des articles d'histoire, des articles de littérature, des articles de philosophie, voire des articles de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, il est impensable, quand on prend l'année sociologique de Durkheim, on n'aura que des choses sur la sociologie. Quand on prend évidemment l'année psychologique, on n'aura que des travaux sur la psychologie. Et si on veut évidemment couvrir plusieurs champs, il faut se procurer ou s'abonner à plusieurs revues. Ça devient évidemment de plus en plus difficile de dominer toute cette matière proliférante. Deuxième élément de conséquence de ces transformations du monde universitaire, c'est finalement des débats. Des débats puisque, comme toute réforme, il y a ceux qui sont favorables, j'ai expliqué leurs motivations, c'était à la fois des motivations politiques, des motivations intellectuelles et des motivations évidemment personnelles, puisqu'ils y trouvaient leur compte, mais il y a aussi toute une ancienne génération, ou en tout cas certains secteurs de la vie intellectuelle, qui trouvent que ces transformations sont dommageables parce qu'elles renoncent à ce qui était l'ancien idéal de l'université, qui était l'idéal de la culture générale, qu'elles renoncent aussi à la spécificité d'une certaine culture humaniste fondée sur la littérature, fondée sur la rhétorique, et qu'on s'enferme plus dans un discours spécialisé et savant, difficile d'accès à ceux qui ne font pas partie du cercle des élus. Et puis il y a une accusation qui est plus grave, qui est d'une atrophie de l'intelligence ou une atrophie du savoir, dans la mesure où le savant trop spécialisé finit par perdre la vue d'ensemble ou par perdre une ambition intellectuelle. Il va falloir plusieurs débats pour égrainer ces défenses ou ces attaques. Bon, là, je vous ai mis toute une série de noms de chaires qui ont été créés dans ces années-là. Donc, vous voyez, cette prolifération de disciplines. Mais surtout, on a nécessité dans ces disciplines d'être à l'écoute de ce qui se fait à l'étranger. Donc, évidemment, du coup, on a moins de temps pour s'occuper de problèmes plus internes. Et puis, surtout, il y a donc la volonté, ça c'est un extrait du discours qu'a tenu Louis Pasteur lors de l'inauguration de l'Institut, qui soutient donc l'idée que c'est la science doit être au service de la société. Or tout cela, évidemment, tous ces choix ne sont pas forcément acceptés par tout le monde. Il y en a d'abord qui déplorent que l'université se ferme sur elle-même et donc qui proposent, c'est ce que nous sommes en train de faire ici même d'ailleurs, de créer d'autres lieux alternatifs, plus ouverts, qui ne soient pas enfermés dans ce modèle trop académique, trop spécialisé, trop orienté uniquement par les intérêts de la science, mais qui pensent aussi à d'autres types de publics, donc en créant des cours libres, en créant des universités populaires, voire en créant des établissements alternatifs qui ne soient pas liés au modèle universitaire. Donc ça, c'est un premier type d'évolution possible, et on voit toute une série d'initiatives en ce sens à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et puis, il y a ceux qui déplorent les effets négatifs pour d'autres raisons. Première raison, c'est un antagonisme qui se manifeste entre ce qu'on appelait à l'époque Paris et la province, on dirait aujourd'hui entre Paris et les régions, parce que, bien entendu, ces nouvelles universités demandent des moyens bien plus importants, et évidemment, il y a surtout à Paris qu'on peut mettre à la disposition de ces universités ou de ces établissements l'ensemble des disciplines, l'ensemble des ressources nécessaires pour tenir cet idéal très exigeant. Et dans une petite université ou dans une petite ville de province où il y a beaucoup moins d'étudiants, où il y a beaucoup moins de professeurs, on fait semblant de faire la même chose qu'à Paris, mais on ne peut pas faire la même chose avec 40 professeurs et avec 10, c'est une évidence. Du coup, il y a un fossé qui se creuse entre ceux qui pourront avoir accès aux universités les plus importantes des grandes villes et ceux qui seront relégués dans les villes secondaires. Deuxième débat, c'est le débat autour même de cet idéal positiviste qui est en fait l'animation qui est derrière toutes ces ambitions, c'est-à-dire de faire de la science et uniquement de la science, alors que beaucoup disent l'université c'est pas seulement la science, c'est aussi un lieu de réflexion, c'est aussi un lieu de débat, et avoir uniquement comme modèle régulateur celui du positivisme et de la science, c'est atrophier l'ambition intellectuelle de l'université. Et on a eu une première polémique à ce sujet, en 1895, lancé par un critique littéraire qui s'appelle Ferdinand Brunetière, qui était le directeur de la Revue des Deux Mondes, donc une revue qui incarne un petit peu l'ancien modèle, le modèle humaniste généraliste et non spécialisé, et qui dénonce ou qui critique cette vision scientiste de l'université, et surtout qui lui dit qu'elle ne peut pas résoudre tous les problèmes, que tout ne relève pas de la science, qu'il y a des limites à la science et qu'il y aura toujours à côté d'autres nécessités d'enseignement, d'autres formes d'enseignement nécessaires pour la compléter. Bon, c'est une attaque un petit peu, disons, discutable dans la mesure où Brunetière fait un procès d'intention à ceux qui ont fait ces réformes, que lui-même est un universitaire puisqu'il enseigne non pas à la Sorbonne mais à l'École normale supérieure, donc c'est un peu paradoxal d'avoir quelqu'un du Sérail qui critique sa propre maison, et il s'attire aussitôt évidemment des répliques de grandes personnalités. Je pourrais citer en particulier Marcelin Berthelot, donc qui était un des grands chimistes de l'époque, et qui voit dans cette attaque de Brunetière quelque chose de purement défensif et régressif, et qui marque sa confiance dans cet idéal savant contre ce retour à une sorte d'humanisme d'autrefois. Donc cette première polémique n'a pas été décisive, les réformes ont continué, le modèle savant a continué à se développer. En revanche, il y a eu une deuxième salve, en quelque sorte, en 1910, c'est ce qu'on a appelé la querelle de la nouvelle Sorbonne. Alors, j'en parle un peu, non seulement parce que la Sorbonne est un mot qui existe encore et qui peut encore susciter beaucoup de débats, mais parce que dans ce débat, on peut voir, plus que dans le débat entre Brunetière et les savants nouveau style, une espèce de volonté de réaction de retour en arrière à un moment où pourtant les choses sont déjà très avancées, hein. Les réformes sont presque au bout, elles ont presque été terminées, mais on voit qu'il y a toujours dans la société des gens qui résistent et qui refusent ce modèle. Alors, les attaques donc de ce personnage qui prend un nom un petit peu inspiré de l'Antiquité, Agathon, en fait, c'est deux jeunes gens qui s'appellent Gabriel Tarde et... pas Gabriel Tarde, ça c'est le père, Guillaume, Alfred de Tarde, pardon, et Henri Massis. Donc ce sont deux jeunes gens de bonne famille, l'un est le fils d'un sociologue célèbre, l'autre est le fils d'un bourgeois de province, mais qui sont d'inspiration, disons, néoconservatrice, en tout cas, qui sont très proches par leur position du mouvement de l'Action française. Et en s'attaquant à la Sorbonne, il ne s'attaque pas seulement, évidemment, à l'université la plus prestigieuse et qui a donné, en quelque sorte, l'idéal ou le modèle de la nouvelle université. Il voit dans la Sorbonne, telle qu'elle a été transformée, une sorte de cheval de Troie de ce qu'ils appellent la germanisation des esprits. Donc là, vous voyez, on n'est plus seulement dans un débat intellectuel, on est aussi dans un débat de type politique, accusant la Troisième République en quelque sorte d'avoir vendu l'âme de l'université à l'ennemi, hein, en ayant imité trop servilement le modèle germanique d'université, en ayant renoncé à ce qui fait, c'est ce qu'ils emploient comme mot, l'essence de la culture française, c'est-à-dire l'héritage de la culture classique. Ils se réfèrent au XVIIe siècle, ils se réfèrent aux humanistes de la Renaissance, et même en ayant oublié l'enseignement des philosophes, c'est-à-dire l'esprit critique et l'esprit encyclopédique. Donc là, c'est une attaque, évidemment, non seulement politique, mais vraiment globale sur ce nouveau modèle intellectuel incarné par la Nouvelle Sorbonne. Et leurs deux têtes de Turc dans ce pamphlet, ce sont deux professeurs dont les noms sont peut-être encore connus de vous, mais en tout cas, ils devraient l'être. C'est Émile Durkheim, d'un côté, donc le fondateur de la sociologie, et de l'autre, Alphonse Allard, donc, qui est l'historien de la Révolution française et qui incarne justement une histoire nouvelle, en tout cas une histoire qui se veut au service de l'idéal républicain et qui, évidemment, approfondit particulièrement l'histoire de la Révolution française pour montrer les nouveaux courants qui aboutissent à la Troisième République. Donc, pour ces gens qui, évidemment, sont de sensibilité conservatrice et plutôt réactionnaire, ces deux personnages incarnent à la fois une science mise au service d'une politique qu'ils déplorent, mais aussi qui renonce, d'après eux, à la grande ambition intellectuelle qui devrait être celle d'un universitaire se référant au modèle classique. Alors il y a aussi derrière cela une autre critique, c'est le refus de la démocratisation. Il y a très clairement l'idée que cette université qui s'est beaucoup gonflée, qui a beaucoup élargi ses objectifs, qui a encouragé, qui a essayé d'encourager la mobilité sociale pour de nouvelles couches, c'est une université qui va créer une fausse science, qui va créer de faux instruits, qui va créer des étudiants qui auront des ambitions excessives et qui ne trouveront pas leur place dans la société. Enfin, c'est un discours qu'on a déjà beaucoup entendu depuis 1968, mais qui a déjà été expérimenté, vous le voyez, dès avant la guerre de 14. Alors, bien entendu, la Nouvelle Sorbonne, comme on l'appelle à l'époque, n'a pas laissé ses attaques sans réponse. Il y a eu toute une série d'articles émanant de gens qui adhèrent à ce nouvel idéal intellectuel et qui ont évidemment essayé de démonter ces arguments critiques face à la nouvelle université. Alors, nous arrivons maintenant dans un deuxième moment qui est une période plus critique. Non pas critique au sens où je viens de l'employer, c'est-à-dire où on met en cause l'université, mais plutôt critique parce que cet idéal de l'université de la Troisième République, ou qui avait essayé d'être mis en œuvre, commence à donner des signes de vieillissement ou des signes de fragilité, non pas parce qu'en lui-même il n'était pas digne d'être défendu, mais parce que l'État, en quelque sorte, n'a plus les moyens ou n'a pas assez mis de moyens au service de la défense et du développement de ce qui avait été fait avant 1914. Et cette période critique, comme vous le voyez, va s'étendre quand même sur une assez longue période, puisqu'elle va, en gros, de la guerre de 14 jusqu'au début des années 50. C'est un moment où l'université ancienne commence à tanguer, à avoir beaucoup de difficultés à s'adapter au monde moderne, et où surtout le gouvernement, du fait d'autres urgences, et évidemment vous imaginez lesquelles, puisque entre 14 et 18, l'urgence principale, c'est la défense nationale. Ensuite, dans l'entre-deux-guerres, il y a le problème de la reconstruction de la France. La France a été quand même envahie pendant 4 ans, et une partie de son territoire a été occupée, et ce territoire est à remettre en état après des ravages considérables liés au combat. Et puis ensuite, il y a tous les désordres liés à la crise économique de 1929, et puis de nouveau, la grande conflagration avec la défaite face à l'Allemagne, puis la période de l'occupation et de nouveau une période de reconstruction. Donc vous imaginez bien entendu que la priorité n'est plus accordée aux dépenses en faveur de l'enseignement supérieur et que donc les établissements d'enseignement supérieur traversent une très mauvaise passe et n'ont plus les moyens de leurs ambitions antérieures. Donc ça, c'est une des causes de base de cette crise de l'université de cette période 1914-1950. Un deuxième phénomène, c'est que, bien entendu, quand on a rajeuni un corps universitaire, pour que ce rajeunissement ne disparaisse pas, il faut l'entretenir, c'est-à-dire il faut toujours recruter de nouvelles têtes, sinon les jeunes qui étaient jeunes au début ne le sont plus au bout d'un certain temps. Et malheureusement, à cause de ces difficultés budgétaires, à cause de cette moindre priorité accordée à l'enseignement supérieur, on va avoir un phénomène de vieillissement sur pied et d'une génération qui ne va pas se renouveler et qui va donc progressivement tomber dans les routines qu'elle avait pu dénoncer dans la période précédente. Enfin, troisième phénomène, il y a évidemment de nouveaux défis qui se posent à l'enseignement supérieur dans cette période. Le défi en particulier de la compétition non plus avec l'Allemagne, mais avec de nouveaux grands pays émergents, c'est-à-dire en particulier les États-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne, qui continue, eux, de faire des efforts considérables pour moderniser et développer leur enseignement supérieur. Et dans un certain nombre de domaines, les savants français s'aperçoivent qu'ils n'ont pas les équipements à la hauteur de leurs ambitions et que dans des domaines, ils sont évidemment surclassés. Il suffit de voir l'évolution du nombre des prix Nobel dans l'entre-deux-guerres entre les différents grands pays, alors que la France et l'Allemagne, avant 1914, faisait presque jeu égal. On voit l'écart se creuser en termes de prix Nobel entre la France, qui en décroche péniblement deux, et puis les autres grands pays qui raflent la mise de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de la Manche, voire aussi du côté de l'Allemagne. Donc un moment critique en termes de moyens, en termes d'ambition et en termes de prestige international. Et enfin, des rigidités qui continuent d'empoisonner la vie des universitaires, en particulier la centralisation parisienne qui reste toujours excessive quand on la compare à celle d'autres grands pays et qui nuisent à la réactivité du système et à sa capacité d'innovation. Alors, que vont faire les universitaires face à cette situation? Ils vont essayer de, d'une part, faire le gros dos, mais aussi de trouver des moyens alternatifs, puisque l'État n'est plus à la hauteur de leurs attentes. Et ceux qui vont continuer d'essayer d'innover, ce sont, comme souvent à l'époque, les savants des disciplines de sciences de la nature, principalement les physiciens et les chimistes, parce qu'eux sont confrontés, bien sûr, en permanence à une compétition internationale. Et donc, ils vont essayer d'inventer des institutions supplémentaires, dont je vous ai mis les noms, la Caisse des sciences, la Caisse nationale de la recherche scientifique, puis le CNRS, puis différents instituts spécialisés, le Commissariat à l'énergie atomique, l'INSERM, etc., pour essayer, puisque l'université ne fait plus son travail, de disposer de lieux de recherche qui sont à la hauteur des demandes, mais tout ça, ça demande évidemment tout un travail de lobbying et surtout de trouver des interlocuteurs alternatifs au ministère de l'Éducation nationale. Donc ils vont aller chercher du côté de la Défense, ils vont aller chercher du côté de l'économie, ils vont aller chercher du côté du mécénat, en particulier en recourant aux fondations américaines qui veulent bien aider la France parce que la France a été leur alliée pendant la guerre de 14, mais qui évidemment demandent des gages quand ils donnent des dollars en contrepartie. Donc il y a tout un mouvement d'effervescence où, vous voyez, on se sépare progressivement de ce modèle classique de la France où c'est l'État qui fait tout et où on essaye d'avoir des acteurs nouveaux, alternatifs aux acteurs de l'État. Deuxième phénomène pour réagir face à cette crise, c'est essayer de trouver des nouveaux domaines qui jusque-là n'étaient pas représentés ou qui étaient trop séparés les uns des autres. Et on a en particulier ce projet, qui va être un projet très long à mettre en œuvre, d'une nouvelle section de l'école pratique des hautes études. On a vu que cette école pratique des hautes études avait été créée après ces réformes universitaires, surtout dans le domaine des sciences de la nature, puis de la philologie ou de l'histoire, mais il manquait un domaine, c'était les sciences sociales. Et donc il va y avoir un petit groupe de gens, dont les plus célèbres sont Lucien Febvre et Fernand Braudel, qui vont déjà, dès l'entre-deux-guerres, essayer d'obtenir les moyens de créer ce qu'ils appellent la sixième section, puisqu'il y en avait jusque-là cinq, donc une section vouée aux sciences sociales et qui permet aux sciences sociales de former un bloc au lieu d'être séparés entre les facultés, comme c'est le cas à l'université. Alors ça va échouer dans la période de l'entre-deux-guerres, malgré plusieurs tentatives. La seule chose qui va aboutir, c'est la création de cette célèbre revue qui s'appelle les Annales, à l'époque c'est les Annales d'Histoire économique et sociale, aujourd'hui ça s'appelle Annales Histoire et Sciences sociales, enfin le nom a changé mais c'est la même revue qui continue. Et cette revue est justement une incarnation de cette tentative de renouer des liens entre les disciplines de sciences sociales et aussi de ne pas être simplement enfermé dans l'université, mais de pouvoir toucher éventuellement un autre public que le public académique, puisque si vous lisez le premier numéro des Annales, paru en janvier 1929, vous verrez dans l'éditorial qu'il souhaite être une revue lue en dehors du monde académique, qui puisse servir pour éclairer ce qu'ils appellent l'honnête homme, c'est-à-dire le décideur, c'est-à-dire, par exemple, l'ingénieur ou l'économiste ou l'homme politique, qui aura, grâce aux sciences sociales qui seront réunies dans cette revue, des vues un peu plus à long terme pour agir sur le monde contemporain. Donc, vous voyez, c'était un projet qui était beaucoup plus moderne d'un certain point de vue que ne l'est la revue actuelle des Annales, qui n'a jamais eu, enfin qui n'a plus du tout cette ambition de pouvoir servir à des objectifs pratiques. Mais en tout cas, ça traduit bien une nouvelle idée que l'université a tendance à être trop fermée sur elle-même, qu'il faut qu'elle s'ouvre sur le monde contemporain et que les sciences sociales aient une action sur le monde contemporain. Donc ça, on voit bien qu'il y a encore des gens qui essayent d'innover, d'avancer, mais ils sont dans une conjoncture négative et cette revue, malheureusement pour eux, n'aura pas le succès qu'ils comptaient. Elle sera finalement importante sur le plan intellectuel, importante sur le plan de l'histoire, mais elle n'aura pas l'impact qu'ils en espéraient sur d'autres acteurs ou sur d'autres domaines de la vie publique, puisque vous voyez, le tirage est quand même tout à fait classique pour une revue savante, 1100 exemplaires, 300 abonnés, on est tout à fait dans un schéma classique de revue savante, on n'est pas dans une revue qui tire à 10 000 ou 20 000 exemplaires comme il l'aurait espéré pour arriver à toucher d'autres publics que le public académique. Alors, autre façon de sortir de ce ghetto, c'est d'essayer de parler dans d'autres lieux que les revues savantes, c'est donc mobiliser d'autres types de périodiques, ce qu'on appelle les magazines, et qui sont aussi une des nouveautés de la vie intellectuelle de cette période, c'est-à-dire, bon, vous connaissez évidemment cette formule puisqu'elle existe toujours aujourd'hui, qui mélange de l'actualité politique avec de la réflexion intellectuelle, avec un regard sur les nouvelles productions intellectuelles, avec des interviews d'acteurs de la vie intellectuelle, donc qui essayent de faire un condensé des activités intellectuelles, mais en s'adressant non pas aux savants ou aux spécialistes, mais à un public plus large, donc en ayant une fonction de vulgarisation. Donc là, je vous ai mis quelques noms de ces types de revues qui essayent d'être un pont entre la vie intellectuelle traditionnelle ou générale et la vie scientifique plus spécialisée. Alors il y en a d'autres qui vont encore plus loin, ce sont ces savants qui sont, disons, de sensibilité à la fois positiviste et de gauche, et qui sont très inquiets par ce qui est en train de se passer dans l'entre-deux-guerres, qui est, vous le savez, cette montée de tous ces mouvements irrationalistes ou qui s'appuient sur des idéologies irrationalistes, hein, en particulier tous les mouvements de type fasciste, et qui sont souvent soit appuyés sur des fausses sciences, hein, comme l'anthropologie pour justifier le racisme, soit qui veulent manipuler la science au service de buts idéologiques, hein, on peut penser aux expériences de certaines formes de médecine dans des régimes totalitaires, et donc pour ces savants qui veulent incarner au contraire une science progressiste, qui souhaitent que la science ne serve pas à la manipulation des hommes ou à l'asservissement des hommes et des femmes, leur volonté c'est donc de donner une autre image de la science et de défendre les valeurs de la raison dans cette science. Donc ils vont fonder cette union rationaliste en 1930, et quand on regarde l'état-major de cette union rationaliste, on y voit beaucoup de professeurs de la faculté des sciences de Paris, du Collège de France, de grands organismes de recherche, et ils ne se contentent pas évidemment de se congratuler en disant la science c'est beau, mais ils essayent aussi de diffuser un nouveau message et une nouvelle image de la science à travers un certain nombre de brochures ou d'une revue, mais aussi en allant sur le terrain dans différents endroits, en province ou dans des petites villes, pour mobiliser un public plus large et faire passer ce message pour empêcher qu'il n'y ait que ce seul discours anti-scientifique ou irrationaliste qui se diffuse dans le monde normal. Donc vous voyez, c'est une période critique, mais c'est quand même une période d'innovation. C'est quand même une période où les universitaires ne se sont pas contentés de regarder passer les trains et voir la catastrophe arriver. Bien entendu, comme la catastrophe a eu lieu quand même, on est un petit peu déprimé à la fin de cette période. Mais il faut quand même voir qu'il y avait déjà des ressources pour aller plus loin. Et c'est ces ressources qui vont nourrir la troisième phase sur laquelle maintenant je vais parler, c'est-à-dire cette période des années 50 et 60. Donc, qu'est-ce qui change par rapport à la période précédente ? Eh bien, c'est d'une part qu'on a quand même passé le plus gros des calamités qui se sont abattues sur la France au XXe siècle. On en a fini avec les guerres pour l'instant. Il y a encore les guerres coloniales, mais c'est quand même moins catastrophique que ne l'était la Première et la Seconde Guerre mondiale. On a d'autre part des gouvernements qui, de nouveau, croient aux vertus de la science et à la liaison entre la science et le développement économique et social. Il y a tout un nouvel idéal que j'appelle néo-saint-simonien, c'est-à-dire l'idée qu'on peut planifier l'avenir, on peut construire une nouvelle société en s'appuyant sur les ressources des sciences sociales et sur les ressources des sciences de la nature et de la technique. Donc il y a un nouvel optimisme, une croyance dans la puissance démiurgique de l'homme, et des gouvernements qui essayent de créer de nouveaux organismes pour mettre en œuvre cette nouvelle politique. Donc tous ces projets qui avaient été un peu enterrés dans l'entre-deux-guerres, la sixième section de l'école pratique, tous ces centres de recherche qui avaient un peu vivoté ou qui dépendaient de la charité publique ou des fondations étrangères, vont reprendre du service et en tout cas connaître un nouveau développement et se mobiliser au service de ce nouvel idéal. Donc on est vraiment dans un nouveau climat intellectuel et dans une nouvelle dynamique plus homogène entre les attentes des communautés universitaires ou des communautés savantes et les demandes à la fois du gouvernement et de la société dans son ensemble. Alors voici toute une série de ces centres de recherche qui se sont créés dans cette période. Oui, enfin, je n'ai pas mis tout, mais enfin, il y en a un certain nombre très importants, et en tout cas, qui tous se spécialisent sur un domaine pour être justement cette espèce d'organe de liaison entre l'innovation, la recherche et des applications éventuelles pour la société elle-même. Alors l'ISEA, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais enfin ça veut dire Institut de Sciences Économiques Appliquées. Le mot appliqué évidemment est très intéressant. On ne fait plus simplement de l'économie politique théorique dans l'abstrait, on veut en tirer des conséquences pour la pratique. L'INED, c'est l'Institut National d'Études Démographiques. Là, c'est un des grands soucis qu'avait la France dans cette période de son déclin démographique d'avant la guerre de 40. Et il s'agit de trouver une étude scientifique de la population pour trouver des politiques démographiques de renouveau de la population. Le Centre d'études sociologiques va notamment se spécialiser sur l'étude du travail ouvrier dans les usines taylorisées qui vont être le fer de lance de la reconstruction économique et du développement industriel de la France. L'INSEE, évidemment, a une charge de collecte des données statistiques pour mieux piloter l'économie. Le CREDOC s'intéresse à la consommation des ménages pour, là aussi, pouvoir développer des politiques sociales. Le CEVIPOS est un centre qui étudie la vie politique française. Il existe toujours et donc il fait une étude scientifique des comportements électoraux. En tout cas, il prétend le faire. Et puis, on a des travaux sur les organisations, etc. Enfin, il y a toutes sortes de centres de recherche qui veulent vraiment donner à l'État ou aux organismes publics des connaissances précises pour connaître la société telle qu'elle est et ainsi mieux la comprendre et mieux éventuellement la diriger. Alors, à côté de ce phénomène donc de multiplication d'organismes, on a aussi une transformation du paysage des revues, encore une nouvelle génération de revues qui apparaît dans cette période, et en particulier une nouvelle presse intellectuelle qui remplace les anciennes revues traditionnelles, qui essayent d'être un pont entre les revues savantes et le grand public. Et par exemple, si vous prenez la revue la plus connue de cette époque, Les Temps modernes, fondée par Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, qui, comme vous le savez, allait enseigner au Havre avant la guerre de 39 et qui, paraît-il, donnait des rendez-vous à Simone de Beauvoir ici même dans un café où il y a leur portrait l'un à côté de l'autre. Donc Jean-Paul Sartre, c'était le régional de l'étape en quelque sorte. Donc sa revue Les Temps modernes, si vous la regardez, il y a à la fois des articles de philosophie, des articles qu'il écrit avec ses amis, bien sûr, par rapport à ses options philosophiques. Il y a des extraits d'œuvres littéraires, mais il y a aussi parfois des interventions ou des articles de revues qui auraient pu être tout à fait publiés dans des revues de sociologie ou dans des revues d'anthropologie. Donc il essaye de faire le pont entre différents domaines qui jusque-là étaient séparés. D'autres hebdomadaires, comme France Observateur, qui va s'appeler ensuite Le Nouvel Observateur, sont aussi des lieux où on discute les travaux de recherche. On ne se contente pas de parler de travaux pour le grand public. Il y a aussi une dimension avec des historiens comme François Furet qui présentent des travaux de savants tout à fait récents et dans l'actualité. Et puis, il y a toute une série de revues aussi qui sont liées à des partis politiques. Et le plus important de l'époque, c'est le Parti communiste, qui essaye d'avoir aussi une influence sur la vie intellectuelle et d'accueillir des intellectuels ou des universitaires sympathisants de ces idées et qui contribuent ainsi à faire connaître leurs travaux. Donc, on est dans un moment, vous voyez, un peu d'ouverture, de circulation entre des secteurs qui, jusque-là, se tournaient un petit peu le dos. On a aussi des ouvrages, et je vous ai mis ici évidemment des gens très connus, qui transgressent les genres académiques et les genres, disons, de la littérature traditionnelle. Un livre comme « Triste tropique » de Claude Lévi-Strauss, publié en 1955, bon, si on le regarde de loin, ça peut être conçu comme des sortes de mémoires, ou des sortes de souvenirs, ou une sorte de voyage d'un anthropologue qui raconte ses différentes expériences. Mais en fait, sous cet habillage littéraire et très romanesque, en tout cas presque romanesque, sous forme de récit, il y a évidemment toute une série d'idées, toute une série de recherches, toute une série d'expériences humaines et de réflexions sur les sociétés traditionnelles et les sociétés modernes qui font que, sous cet emballage, disons, accessible à n'importe qui, on a une sorte de traité d'anthropologie, ou en tout cas une certaine vision de l'anthropologie telle que la conçoit Lévi-Strauss après un certain nombre d'années de terrain. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce livre, qui n'était pas du tout prévu pour avoir un succès considérable à l'époque, en tout cas Lévi-Strauss n'imaginait pas qu'il aurait le tirage qu'il a eu un succès considérable d'abord de critique, puis il a même été envisagé de lui conférer le prix Goncourt, c'est quand même un peu étonnant pour un ouvrage qui n'est pas un roman, et ensuite c'est un livre qui est devenu un classique, comme vous le savez, qui est maintenant bien sûr disponible en livre de poche et qui a atteint un tirage phénoménal par rapport à ce type de livre. Donc on voit qu'on est dans un moment où cette grande coupure entre, disons, le monde savant ou certaines disciplines du monde savant et un large public commence à s'abaisser, et les autres livres que j'ai mis dans cette diapositive montrent aussi les mêmes phénomènes de gens qui sont plutôt apparaissant comme des spécialistes ou des gens dans un domaine très précis qui arrivent à trouver une formule de présentation de leur recherche ou de leur réflexion qui les met à disposition d'un public beaucoup plus large. Et on voit aussi naître des collections, donc comme Terre humaine, dans laquelle est publié Triste Tropique, ou la collection Archive, ou la collection de Bourdieu, Le Sens commun, qui essayent de toucher au-delà du public des spécialistes. Donc, tout ça prépare évidemment une réouverture de l'université par rapport à ses habitudes d'autrefois. Donc là, vous avez la couverture de Triste Tropique. La couverture, malheureusement, ce n'est pas la couverture originale de Mythologie de Roland Barthes, c'est la version de poche. Je n'ai pas trouvé la photo de la version initiale. Et puis en bas, c'est une caricature publié dans un hebdomadaire qui évoque un soi-disant pique-nique qui aurait réuni donc tous ces spécialistes qu'on englobait à l'époque sous la notion de structuraliste et qui sont habillés en sauvage, puisqu'évidemment c'est une allusion à l'activité de Lévi-Strauss comme anthropologue. Alors cette nouvelle phase donc de la vie universitaire et de la vie intellectuelle nous montre donc à la fois des tendances communes: réouverture sur le monde, interaction plus évidente entre le monde et ses sciences, et aussi une certaine vision optimiste de l'avenir. Évidemment, c'est ce qu'on a appelé aujourd'hui les 30 glorieuses. C'est une expression évidemment tout à fait rétrospective, et personne à l'époque ne l'employait sur le coup. Mais c'est intéressant de voir justement comment on a mythifié un petit peu cette époque en faisant une espèce de nouvelle idéal ou de nouvel âge d'or, à la fois de l'université parce qu'elle était pleine de dynamisme, à la fois parce qu'elle avait aussi un rayonnement qui dépassait ses limites, et aussi parce qu'elle avait un certain écho politique ou un certain écho international. Et pourtant, en même temps, et c'est pour ça que je pense qu'il faut récuser cette expression de Trente Glorieuses, parce qu'elle crée une image fallacieuse qui n'a pas du tout été vécue comme ça par les contemporains, c'est parce que, en fait, en même temps, c'est un moment où l'université va commencer progressivement à entrer en crise. Elle n'est pas en crise sur le plan intellectuel, elle n'est pas en crise dans sa relation avec le monde extérieur, puisqu'au contraire, c'est un moment, au contraire, d'interaction. En revanche, elle ne va pas voir venir, disons, une sorte de problème interne qui va éclater justement, peut-être pas le 22 mars exactement 1968, mais enfin en tout cas dans les semaines qui vont suivre ces premiers incidents à l'université de Nanterre, c'est-à-dire son incapacité à faire face à ce qu'on a appelé la massification, ou, si on préfère un terme moins péjoratif, la démocratisation de l'université. Puisque nous entrons dans le moment d'accélération de l'augmentation des effectifs, puisqu'entre 1961, on est à 244 000 étudiants, et en 1969, on est passé à 544 000, donc un doublement, plus de doublement en quelques années. Et bien entendu, les structures qui avaient été prévues pour 50 000 ou 100 000 étudiants, eh ben, c'est comme quand vous avez un petit peu forci après trop de banquets arrosés à la crème fraîche, vous n'avez plus moyen de rentrer dans votre pantalon. Donc c'est un peu le même problème. Les structures qui avaient été calibrées pour un monde qui était quand même beaucoup plus petit vont exploser face à cette poussée des effectifs. Alors évidemment, c'est une vision un petit peu mécanique, hein, et qu'on peut évidemment discuter, et je pense que le sociologue qui est dans la salle va la discuter, c'est un peu mécanique, parce que c'est pas seulement parce qu'il y a ce problème démographique qui fait que les effectifs vont exploser et que les structures vont exploser, c'est aussi parce que, disons, qu'il y avait un retard par rapport à la réflexion sur la fonction de l'université. Et quand on entend aujourd'hui, on a beaucoup, à cause de l'anniversaire de 68, redonné la parole soit à d'anciens 68ards, soit on a repris des reportages à la radio ou à la télévision qui avaient pu être enregistrés à l'époque, où on interrogeait les étudiants sur leurs motivations. Alors il y a évidemment les motivations politiques sur lesquelles tout le monde est au courant, mais il y avait aussi une sorte d'inquiétude. Alors vous me direz, aujourd'hui on a toujours la même, mais bien entendu, ce n'est pas parce qu'une époque a une inquiétude qu'elle n'est plus valable aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est la première époque, je pense, et là je parle presque en témoin, où l'inquiétude sur ce qu'on fait à l'université, sur pourquoi on est à l'université, sur ce qu'on va en tirer d'être à l'université, commence à se poser. Ça commence à se poser, non pas parce que, comme on le dit aujourd'hui, il y a la peur du chômage. Quand on regarde les taux de chômage de l'époque par rapport à aujourd'hui, on trouve que c'est un petit peu vraiment des craintes excessives, mais parce que, bien entendu, le modèle universitaire de la Troisième République, tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure, apparaît décalé en termes d'organisation, en termes de définition des savoirs, en termes d'apprentissage des savoirs, en termes de relations entre les enseignants et les étudiants, et aussi en problème d'équilibre entre les différentes disciplines et de modes de validation. Donc tout ce qui allait de soi, en tout cas qui avait été mis en place dans les années 1880-1900 et qui n'avait pratiquement pas bougé depuis 1880 et 1900, évidemment en 1960, ça ne convient plus. On est dans une nouvelle société, on est avec une jeunesse qui n'a plus les mêmes caractéristiques sociales ni le même équilibre. On est dans le moment où les jeunes filles deviennent aussi nombreuses que les garçons. Ça change radicalement les conditions aussi de relations à l'intérieur de l'université. On est dans des générations aussi où les professeurs et les étudiants sont trop décalés en termes d'âge, puisque les professeurs restent sur place, les étudiants se renouvellent. Donc il y a fossé, comme on a dit, de génération. Et puis, il y a aussi cette fonction, à quoi sert l'université? Les professions ne sont plus les mêmes au bout. Il y a une inquiétude sur l'inadaptation des formations par rapport à la société. Donc, toute cette crise sous-jacente qui va aboutir à l'explosion de 1968, ce qui est très frappant, c'est que très peu, finalement, de gens, en tout cas, quand on relit les textes des années 60 par rapport à ce qui va se passer, très peu de gens l'annoncent, très peu de gens prévoient ou anticipent. Alors bien sûr, il y en a qui voient bien qu'il y a une augmentation des effectifs, il y en a bien qui voient bien que l'enseignement traditionnel n'est plus adapté, il y en a bien qui pensent qu'il faudrait organiser différemment, mais les réponses, aussi bien les réponses officielles, on emploie le mot sélection à l'époque, on n'a pas peur, les réponses internes des universitaires, le niveau baisse, c'est des réponses qu'on a déjà entendues maintes fois au cours de l'histoire. C'est des espèces de répétitions de mots d'ordre traditionnels. Il n'y a pas vraiment de capacité d'anticiper. Alors, il y a quand même quelques travaux sociologiques bien connus, les héritiers de Pierre Bourdieu notamment, puis la reproduction qui essaye de réfléchir sur ces phénomènes, mais on a souvent reproché à ces travaux d'être des constats ou d'être des analyses très efficaces et très complètes, mais de pas tellement apporter à la fin une alternative ou un projet de réforme. Il y aura des tentatives. Au moment de 68, Bourdieu et un certain nombre d'universitaires qui soutiennent le mouvement, au moins théoriquement, vont essayer de proposer des solutions ou des projets de réforme pour préparer les décisions qui vont ensuite sortir à la fin de la crise et qui aboutiront à la loi Edgar Faure de novembre 68. Mais finalement, la plupart des gens se contentent de participer à ces mouvements, se contentent de critiquer la situation, souvent s'enfuient vers l'utopie, mais assez peu propose véritablement des nouveautés ou des réformes véritablement à la hauteur des enjeux. Donc il semblerait qu'il y a un décalage là qui s'est creusé entre la capacité d'auto-réflexion du monde universitaire sur ses pratiques et sur son travail et la capacité d'embrayer sur la réalité. Bon, ça je vais sauter. Et donc je vais peut-être m'arrêter là pour donner quelques conclusions, pour ensuite vous laisser un petit peu la parole. Je pense que je suis dans les temps. Oui. Donc, trois ou quatre grandes conclusions. Je pense que je vous ai montré qu'on avait des phases alternantes hein, de rénovation, de réflexion, de capacité d'innovation. On en a vu deux et on a vu une, au contraire, plus de dépression. Des moments donc qui montrent une meilleure adéquation entre vie universitaire et vie intellectuelle ou réflexion sur la société contemporaine. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont les phases négatives, ou en tout cas la phase principalement négative que j'ai identifiée, qui n'est pas forcément celle où on ne propose pas des choses qui peuvent être à long terme positives et qui vont être prises par la suite. Donc il ne faut jamais se dire que parce qu'on est en moment de crise, l'imagination s'arrête. Je pense qu'au contraire, c'est parfois dans les moments de crise que l'innovation et l'imagination surgissent, même si elles ne trouvent pas les moyens de ces ambitions. Enfin, autre constante, il me semble, des décennies que j'ai analysées dans cet exposé, il me semble qu'on voit toujours un renouvellement aussi des acteurs. Il ne faut pas concevoir cette vie intellectuelle ou cette vie universitaire uniquement en fonction des acteurs traditionnels ou dominants, et que souvent l'innovation ou la capacité d'innover ou de renouveler un système vient de la mobilisation d'acteurs externes ou d'acteurs nouveaux qui ne faisaient pas partie du schéma initial. Alors ça peut être des revues, ça peut être des éditeurs, ça peut être des fondations, ça peut être des mouvements militants, ça peut être même des partis politiques, ça dépend des cas, mais en tout cas, il ne faut pas concevoir cette vie universitaire ou cette vie intellectuelle comme uniquement un face-à-face, disons, entre les universitaires d'un côté, les intellectuels traditionnels de l'autre. Il y a toujours de nouveaux acteurs qui entrent dans le jeu et qui renouvellent ces débats et qui permettent parfois de sortir des enfermements. Enfin, une autre constante, et qui est encore illustrée encore aujourd'hui par l'actualité, c'est cette lutte des disciplines. Disciplines, alors, tantôt c'est sciences dures contre sciences sociales, tantôt c'est humanité contre sciences sociales, tantôt c'est une partie des sciences sociales contre une autre partie des sciences sociales qui font des alliances soit avec les humanités, soit avec les sciences de nature. Ça peut être aussi des sciences qui s'envisagent comme pures ou des sciences qui veulent servir ou être au service de la société. Donc on voit bien que aucun de ces univers, même quand il s'agit de disciplines parfaitement anciennes ou parfaitement définies, n'est jamais figé. Il y a toujours à l'intérieur des dynamiques internes. La philosophie telle qu'on l'enseignait à la Sorbonne en 1900 n'a évidemment rien à voir avec la philosophie de 1930 et encore rien à voir avec la philosophie d'aujourd'hui, même si on l'appelle de la même façon, parce qu'elle se décline dans des variantes multiples et différenciées. Moi, je pourrais dire évidemment la même chose pour l'histoire, où nous avons aujourd'hui aussi bien des historiens extrêmement traditionnels, érudits, qui s'enferment dans leur domaine et dans leur sous-spécialité, et puis d'autres qui, au contraire, essayent d'aller à la rencontre de la société et de vulgariser ce qu'ils trouvent ou d'être présents dans des univers médiatiques ou dans les réseaux sociaux. Donc on voit bien qu'à toute époque, il y a ces différentes options possibles. Donc, si je veux terminer sur une réflexion plus contemporaine, puisque nous avons mis un petit peu ce travail sous l'auscultation de Prodrome de 1968. Je pense que ce qui a été le plus inattendu dans 1968, ce ne sont pas tellement les questions que posait 68, puisque la crise de l'université, elle était déjà là bien avant. Ça n'est pas non plus forcément les réponses, puisque certaines de ces réponses avaient déjà été aussi présentes. Mais ce qui a été évidemment la vraie dynamique de 68 en tant qu'élément de transformation pour de nouvelles réformes ou pour de nouvelles formulations de l'université, ça a été justement la rencontre entre des acteurs qui d'habitude ne se rencontrent pas, c'est-à-dire d'un côté certains types d'étudiants, d'autres certains types de travailleurs qui s'étaient aussi mis en mouvement, et puis dans le monde politique évidemment des réformateurs qui étaient à l'écoute et qui ont essayé d'utiliser cette dynamique pour ne pas simplement soit revenir au passé, soit casser complètement le système, mais essayer de trouver des formules de compromis, donc qui ont pris la forme de la loi Edgar Faure, loi qui évidemment avait ses défauts, mais enfin qui a essayé quand même de garder un certain nombre des idées qui avaient été émises en 1968. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une lecture plus intéressante de faire comme ça que de simplement dire qui avait tort, qui avait raison, et de se moquer parfois de discours un peu utopiques ou de discours extrêmement radicaux qui souvent ne débouchaient sur pas grand-chose de concret. Je vous remercie de votre attention.